Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
This is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power Magazine, des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, notre émission s'intéresse au nouveau journalisme avec la généralisation d'Internet sur la vie économique et sociale, l'accumulation exponentielle des données, la puissance inédite des réseaux sociaux. On assiste à une démultiplication des sources numériques disponibles. Les journalistes s'en emparent. Ce sont de nouveaux outils de recherche, de nouveaux terrains d'enquête, de nouveaux types d'enquête également et d'écriture. Tel est le sujet de ce soir et je reçois pour parler de ce data journalisme, de ce journalisme des données et du journalisme à l'âge digital plus généralement, Jules Darmanin, journaliste, coordinateur de factcheck.eu. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est quoi d'ailleurs factcheck.eu?
C'est un projet qui n'est pas encore lancé de fact-checking à l'échelle européenne pour les élections européennes.
Son nom l'indique d'une certaine manière.
Avec 19 partenaires dans toute l'Europe.
De
médias partenaires dans toute l'Europe.
À vos côtés, David Perrotin, journaliste chez Loopsider. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de BuzzFeed notamment, comme Jules d'ailleurs. C'est donc du journalisme que vous faites depuis longtemps, le journalisme de données et puis tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux pour obtenir de l'information et la traiter.
Ouais, c'est ça, d'autant que j'étais auparavant à Rue89, donc... Un des premiers précurseurs dans ce domaine et c'est sûr que à BuzzFeed c'est là véritablement que on a mis au centre Internet comme terrain d'enquête et après on a pu utiliser de nombreux outils pour enquêter de la meilleure façon dessus quoi.
À 20h, seconde partie d'émission, Zoé Sfès, vous recevez l'invité innovation, votre invité innovation de ce soir, parlera d'une certaine manière de ces sujets également.
Mais complètement même, on va dire de manière extrêmement directe, elle s'appelle Karen Bassin, elle est journaliste assez traditionnelle de formation, elle est devenue data journaliste, elle a cofondé une agence, un studio qui s'appelle WeDo Data, et qui fait ce qu'on appelle du data viz, on va essayer d'en parler avec elle.
C'est plutôt
elle
des qui, images donc.
À partir en fait de jeux de données, soit qui existent, vous avez des médias qui viennent la voir avec des jeux de données existants, mais pas très sexy, soit des médias qui ont besoin de mettre en valeur des données, et elle propose des créations sur mesure qui permettent finalement à un grand public de comprendre et d'ingérer des données qui sont parfois soit trop compliquées, soit même complexes à appréhender.
20h10, le Club de la Presse Numérique, nous parlerons ce soir du rapport qui vient d'être rendu par l'autorité de la concurrence sur l'audiovisuel français, notamment dans ses aspects numériques. Et nous serons pour en débattre avec Emmanuel Paquette de L'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission est réalisée par Émilie Vallatte avec en régie Pierrick Monsigny. L'émission a été préparée par David Lavaux. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. Et pour commencer cette émission, l'actualité des industries créatives et des médias. Mercredi, le ministre de l'économie, mais en liaison avec le ministre de la Culture, Bruno Le Maire, présentera un projet de loi pour taxer les géants du numérique, donc en Conseil des ministres. Cette taxation sur le chiffre d'affaires, donc sur le chiffre d'affaires global de ces entreprises, serait un taux unique de 3%. Revue légèrement à la baisse, taxe anti-GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi contre des Chinois comme Alibaba ou même un Français, Criteo. Elle concerne les revenus publicitaires, la revente des données, ainsi que les commissions touchées par ces plateformes, Zoé Sfès.
Oui, alors on va peut-être faire un petit rappel de contexte, puisque ça fait partie de ces feuilletons que nous suivons ici avec délice chaque semaine dans Soft Power. On se rappelle que, en fait, finalement, cette proposition de loi de Bruno Le Maire, elle intervient après le fameux échec de son projet d'une taxation au niveau de l'Union européenne. Alors ce projet-là, il a finalement, il a décidé de l'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà plusieurs États qui traînaient des pieds, notamment tous ceux qui jouissent finalement de des questions d'optimisation fiscale. Et puis l'Allemagne, son grand allié, a fini par reculer quand Donald Trump a menacé finalement de ne plus acheter de voitures allemandes en représailles si cette loi passait à l'Union européenne. Alors là, du coup, on est sur une loi, donc toujours sur le chiffre d'affaires, qui est donc proposée en France, mais c'est une loi qui pourrait bientôt ne plus exister. Je vous explique pourquoi. C'est toute l'étrangeté de cette histoire de loi anti-GAFA. Donc, je vous l'avais dit, là, c'est une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires réalisée en France par les géants du numérique. Donc, vous l'avez dit, ça vise essentiellement des firmes américaines, mais aussi des Chinois, et notamment un Français, le Français Criteo, qui est une des pépites de la French Tech, qui avait été fondée en 2005 par trois Français, alors qui maintenant est coté au Nasdaq, et qui est spécialisé dans le marketing personnalisé à partir des données, et c'est justement l'une des activités qui est explicitement visée par cette loi. Donc voilà, elle est censée toucher uniquement les très grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires mondial sur leurs activités numériques de 750 millions d'euros au niveau mondial, et un chiffre d'affaires en France de plus de 25 millions d'euros. C'est ça, les entreprises qui seront touchées par cette taxe. Elle ne concerne donc pas les startups, ça faisait partie des peurs, des craintes en tout cas qu'on avait en France. Il y a en gros une trentaine de sociétés qui rentreraient, qui feraient partie des sociétés susceptible d'être taxé. Voilà, on vise en premier lieu les plateformes qui touchent une commission pour mettre en relation des clients et des entreprises, expliquait Bruno Le Maire dans un entretien au JDD. Aucun particulier, aucun utilisateur de service ne seront concernés. C'était bien d'essayer de faire de la pédagogie sur cette loi. Mais tout ça, c'est en attendant une autre victoire potentielle, parce que le but de Bruno Le Maire, maintenant qu'il y a eu cet échec au niveau de l'Union européenne, eh bien, c'est de mettre le dossier sur la table, cette fois-ci, de l'OCDE. L'OCDE qui compte 28 membres de l'Union européenne, mais dont font aussi partie les États-Unis. Et là, le gouvernement, qui ne soutient pas la taxe sur le chiffre d'affaires, se dit, le gouvernement américain, se dit pas opposé à l'idée d'une taxe sur les acteurs du numérique qui passerait par d'autres biais. Le secrétaire américain au Trésor, qui était en visite récemment, s'est dit favorable à ce qu'on ait une solution d'ici la fin de l'année. Alors la fin de l'année, quand, comment, est-ce que la taxe française aura eu le temps d'être entrée en vigueur? Est-ce que cette solution internationale déjà peut être trouvée? Et quel est le calendrier? Tout ça, on est encore sur du flou, mais on est quand même sur une volonté, sur un vrai volontarisme de Bruno Le Maire en France. La grande question, c'est est-ce qu'au bout de 10 ans de débat, on va vraiment arriver à quelque chose ?
Une réaction peut-être, Jules Darmanin, David Perrotin, sur ce projet de loi ?
Alors, ce projet de loi, je ne suis pas journaliste économique, et par ailleurs, ça a l'air relativement complexe. Je ne suis pas non plus journaliste spécialiste de la diplomatie et des traités commerciaux. Mais je pense que la question, c'est aussi comment on propose un meilleur contrôle des données personnelles aux citoyens. Je pense que c'est un sujet qui peut être attenant, parce que peut-être qu'on peut proposer un meilleur contrôle grâce aux fonds qui sont levés via ces taxes. Mais en l'occurrence, là, juste sur cette question de la taxe.
Et pourquoi il y a finalement depuis plusieurs années, je crois que déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy, président de la République, on disait il va falloir taxer les GAFA, François Hollande en avait fait une priorité, ça n'est pas arrivé. Pourquoi ça met tant de temps, et est-ce que ce coup-ci ça va marcher, David Perrotin?
Moi je pense que c'est aussi lié au rapport de force, on le voit avec les États-Unis par exemple, il y a beaucoup d'intérêts à préserver, il y a des enjeux diplomatiques évidemment. Après c'est aussi, ça va aussi dans le sens de la justice fiscale, on sait que les GAFA paye 9% d'impôts alors que la moyenne est de 23%. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi le fait que l'opinion publique accepte beaucoup moins cette injustice. Il y a cette idée-là, et il y a aussi l'hégémonie des GAFA, et on le voit d'ailleurs avec le lien avec la presse et le modèle économique qui pour l'instant n'est pas très viable de la presse, et avec eux qui engrangent beaucoup de tous les revenus publicitaires. Donc je pense qu'il y a plein de questions, c'est le début d'une remise à plat peut-être et d'une vraie réflexion.
Et on a l'impression que ça devient possible parce que au fond les Américains ont aussi ce problème qui les concerne tout autant que nous, y compris en termes d'évasion fiscale sur les îles innombrables qui sont dans les grands océans. Et d'une certaine manière, parce que y compris Donald Trump veut que ces acteurs, ces géants payent des impôts aux États-Unis, du coup ils pourraient avoir à les payer partout.
Bah oui, c'est ça. Et puis, je pense que, enfin, en plus, ça rejoint peut-être les sujets qu'on va évoquer sur les leaks, les Panama Papers, etc. L'idée que il y a quand même une injustice fiscale criante. Mmh. Et je pense qu'il y a, véritablement une lassitude de l'opinion publique par rapport à ça. Il y a des modèles qu'on a trouvé vertueux dès le départ, comme on parlait d'ubérisation de la société, des grosses entreprises qui payaient pas d'impôts. Et là, toutes ces questions-là, alors soit au niveau local, au niveau des contrats de travail, etc., mais au niveau de la justice fiscale et du fait de ne pas payer d'impôts, je pense que ça, c'est aujourd'hui, on l'accepte moins et peut-être plus dans le futur.
Zoé. Une toute petite précision sur cette loi, donc qui ne peut évidemment pas viser et cibler explicitement les lois américaines, ce serait complètement, les géants américains et uniquement américains, ce serait parfaitement illégal, mais pour ne pas pénaliser les entreprises vertueuses, et comprendre aussi les entreprises françaises, par exemple, il faut savoir que le montant acquitté sera déductible du résultat comptable qui est calculé sur l'impôt des sociétés. Sous-entendu, si vous payez vos impôts sur les sociétés en France, cet impôt, vous pouvez le déduire, ce qui voilà est un espèce d'appel, y compris pour les potentiels, on espère qu'il y en aura futurs géants français, à ne pas avoir peur.
Pour les licornes et autres GAFA français, si le mot, ne serait-ce que l'expression, puisse un jour exister. Et puis alors, toujours dans l'actualité de la semaine, on sait maintenant, dans un tout autre sujet, qui va présider, Zoé Sfez, le jury du 74e Festival de Cannes.
Oui, c'est les Mexicains, il s'appelle Alejandro González Iñárritu. Alors c'est très intéressant quand même, parce que rappelez-vous, la semaine dernière, nous parlions ici des Césars et puis des Oscars qui étaient à venir, les Oscars où on attendait une potentielle consécration de Roma, d'Alfonso Cuarón, le réalisateur mexicain. Bon, il n'a pas eu la consécration suprême, il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film, il a eu l'Oscar de la meilleure réalisation, c'est pour la deuxième fois, et cet Oscar lui a été remis par son meilleur ami Guillermo del Toro, sachant que ces deux réalisateurs mexicains, ils sont avec un troisième surnommé les Three Amigos. Ce sont trois réalisateurs de la même génération qui ont réussi d'un Mexique où il n'y avait pas d'industrie du cinéma à s'imposer à Hollywood. Alors notre ami Cuaron, on sait très bien qu'il sait qu'il a commencé à faire des films sur Netflix. Et là, eh ben Cannes choisit Alejandro González Iñárritu. C'est un choix très intéressant parce que c'est un réalisateur qui a démarré avec un film qui s'appelait Amour chienne et qui a démarré à Cannes. Ça a été l'un des endroits où il a, on va dire, explosé. Et puis depuis, en fait, il a véritablement conquis Hollywood. Il a eu deux fois aussi l'Oscar de la meilleure réalisation pour Amour chienne et pour The Revenant. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne travaille plus qu'avec des gros studios aujourd'hui, alors qu'au début, il était sur des petits studios indépendants. Donc il va de plus en plus vers les grosses majors d'Hollywood, tout en continuant à fournir un cinéma de qualité. Et la dernière fois qu'il est venu à Cannes, c'était avec un projet qui n'était pas un projet de film. C'était une installation de réalité virtuelle qui s'appelait Carnet et Arena, donc qui a ensuite beaucoup tourné dans les musées. Et c'est très intéressant parce que c'est l'un des seuls qui aujourd'hui ne travaille toujours pas avec des plateformes de SVOD. Dans Le Monde, on a Thomas Sautinel qui écrit: c'est un réalisateur qui ne s'est pas encore compromis avec Netflix. J'ai trouvé que cette phrase était assez intéressante dans la bouche d'un journaliste français. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour Cannes? Cannes, n'invite toujours pas, a priori, on en est quasiment certain. Il y aura pas dans la sélection de films qui sont présents sur des plateformes de SVOD. Toujours pas de films Netflix, mais voilà, on s'ouvre, disons, vers Hollywood et vers un cinéma commercial de qualité pour ne pas être complètement isolé du monde.
Dans un instant, on s'intéresse aux nouvelles formes de journalisme à l'âge digital. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le mini-album de Carlos Santana qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule « À la recherche de Mona Lisa ». Le guitariste d'exception, mexicain, on le sait, est tombé amoureux de la Joconde lors d'une visite au Louvre à Paris il y a 2 ans, je crois, de cette conversion mystique et dont il parle un peu comme, je ne sais pas, Claudel lisant une série en enfer à Notre-Dame de Paris. Santana a fait un album dont on écoute un extrait. Pour les aficionados, Santana a accordé également ce dimanche une longue interview au JDD où il se souvient de Woodstock, étant d'identifier à travers les mouvements Occupy Wall Street, Me Too, Black Lives Matter, les nouveaux hippies. Carlos Santana. Culture, Carlos Santana, 19h16.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Généralisation d'Internet sur la vie économique et sociale, accumulation exponentielle des données de tous côtés, que ce soit des entreprises, des administrations, des individus, puissance aussi inédite des réseaux sociaux, tout ça, on l'a dit, permet une démultiplication des sources numériques disponibles. Les journalistes s'en emparent, ça leur permet d'avoir de nouveaux outils de recherche, de nouveaux terrains d'enquête, de nouveaux types aussi de travaux et d'articles à écrire, et même de nouvelles écritures pour parler et pour mettre en scène, ou en tout cas pour illustrer, utiliser ces données. Nous sommes avec Jules Darmanin, journaliste, coordinateur de factcheck.eu, un site qui va être lancé. David Perrotin, journaliste chez Loopsider. Tous les deux, d'ailleurs, vous venez de BuzzFeed. On parle ce soir du data journalisme et plus largement, d'ailleurs, du journalisme à l'âge digital. On peut peut-être commencer avec vous, David Perrotin. Comment ça émerge, ces nouveaux courants, ces nouvelles tendances, qui au fond sont assez anciennes, les données utilisées, j'imagine, pratiquement depuis Gutenberg. Malgré tout, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui se passe à un moment donné?
Alors, je pense que il y a évidemment l'importance qu'a pris Internet dans nos vies, qui exige de repenser notre façon de faire du journalisme. On le voit par exemple, avec le réseau social Twitter, c'est intéressant. Moi, j'ai commencé à être journaliste dans 2012-2013, où c'était beaucoup moins important, mais ça prenait naissance. Et là, on voit que c'est complètement, on peut pas s'en passer. Alors, ça pose des questions, mais vous avez à la fois les citoyens qui sont sur Twitter sont toujours à l'initiative de désinformation, parce que aujourd'hui, on va avoir, par exemple, des vidéos qui vont être publiées. Ou des dénonciations, et puis en tant que journaliste, alors c'était le propre de BuzzFeed, maintenant c'est assez généralisé dans différentes rédactions, mais nous il y avait l'idée qu'on allait se servir de ces réseaux comme des terrains d'enquête véritables. Il y avait ni mépris, ni indifférence. L'idée c'est que Twitter, Facebook, ou de la même façon qu'un reportage sur le terrain, ça a la même valeur. Et à partir de là, quand on voit des données passer sur ces réseaux, et ben
on peut les exploiter. Alors ce qui est intéressant dès le départ, c'est qu'il s'agit de choses publiques. On parlera peut-être du dark web, du deep web tout à l'heure, mais là en l'occurrence c'est par exemple les candidats Front National aux législatives il y a quelques années publient un certain nombre de choses sur leur compte depuis des années et sur Facebook, et une enquête qui a été faite va tout simplement aller voir ce qu'ils ont écrit et en déduire un certain nombre de choses. Donc c'est ce type d'enquête dont on parle ce soir.
Absolument, c'est en fait on peut appeler ça du journalisme de données, même si ce terme parle souvent de données chiffrées. Un autre terme qu'on peut utiliser, c'est le journalisme en source ouverte, c'est-à-dire que des sources qui sont disponibles publiquement, des choses qui sont disponibles publiquement, seulement on va savoir comment les trouver sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche.
Et ensuite les exploiter. Est-ce que ça nécessite pour vous les uns les autres des compétences techniques particulières?
C'est très variable en fait. On peut le faire juste à partir de Google. On sait 2-3 choses sur comment faire une recherche sur Google. Ça peut déjà permettre à commencer à faire des choses. Et puis après, plus on avance, plus on développe un peu son champ de compétences, plus on va être amené à utiliser des outils. En l'occurrence, pour Facebook, on utilise un outil de Facebook qui s'appelle le Graph Search. En fait, Facebook a sa propre architecture pour les données qui sont disponibles sur les profils de ses utilisateurs. Il y a un moteur de recherche qui permet d'exploiter en fait cette architecture. Donc, par exemple, je vais chercher toutes les photos likées par tel candidat aux législatives FN, et c'est des données sur lesquelles je vais pas tomber quand je vais aller sur son profil. Mais par contre, c'est des données qui sont publiques, parce que si la photographie que l'individu a likée est elle-même publique, si on clique sur qui sont les personnes qui ont liké cette photographie, j'ai la liste des personnes. Et donc en fait, c'est vraiment utiliser cet outil de recherche particulier.
David Perrotin, sur ses compétences techniques nécessaires.
Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, il y a Jules et donc moi, nous, à BuzzFeed, il y avait des gens qui étaient plus compétents que d'autres, et donc il y a une vraie complémentarité, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est ce qui se joue, moi, je pense à, il y a une candidate de Depot, la République, qui a été épinglée par l'émission Quotidien récemment, parce que elle avait posté des commentaires à connotation raciste sur Facebook, la même chose sur Twitter. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est lorsqu'il y a eu la confrontation entre le journaliste de Quotidien, qui du coup a eu l'idée d'aller fouiller son compte Facebook public, encore une fois, elle est tombée des nues et elle a dit « Oh là là, il faut que j'aille fermer mon compte, je ne savais pas que les gens avaient accès à ces données. » Et en fait, c'est intéressant, c'est le gap, la différence entre... là, aujourd'hui, vous avez des journalistes qui commencent à comprendre comment on peut utiliser de la meilleure façon ces réseaux. Et après, évidemment, ça pose question, c'est-à-dire que vous avez des gens qui postent des commentaires, qui pensent que c'est de la même chose que d'être dans le bistrot et café du commerce et tenir des...
Oui,
des
vous likez quelque chose, vous ne pensez pas que tout ça va rester.
Exactement.
Et qu'on va savoir... Et quand on regarde sur un élu pendant des dizaines d'années, maintenant, ou en tout cas une dizaine d'années, tous les likes qu'il a pu avoir, on commence à comprendre quelque chose de sa psychologie, même si lui-même ne parle pas. C'est ça aussi le problème.
Voilà, c'est ça. Et puis alors après, il y a des gens qui disent, mais un like, ça ne reflète pas ma pensée politique, etc.
Mais quelques milliers de likes dans la même direction.
C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a scruté tous les candidats frontistes, évidemment, on a retenu ceux qui pouvaient liker des publications néo-nazies, qui pouvaient avoir des publications à teneur antisémite. Et du coup, bon, après, c'est parole contre parole, mais nous, il y a l'idée aussi que, voilà, il y a des données disponibles.
Enfin, c'est pas parole contre parole, ils ont liké.
Non, parce qu'après, ils peuvent dire...
C'est des données,
exactement.
Justement.
Et après, alors, il y en a qui inventent qu'ils ont été piratés, etc., il y a beaucoup, mais toutes ces excuses seront, à mon avis, de moins en moins possibles, parce que les journalistes ont maintenant pris l'habitude d'aller utiliser, ce que je disais tout à l'heure, ces réseaux sociaux comme des véritables terrains d'enquête, de la même façon que si on faisait une interview avec un politique, s'il tient un discours antisémite, ça aurait, a priori, aujourd'hui, c'est aussi condamnable que s'il poste un commentaire Facebook antisémite.
On parle parfois d'aspiration de données. Je sais que c'est un terme qui existe un peu dans le jargon. Quand on parle de ça, on dit quoi ? C'est-à-dire, je cherche quelque chose et je vais aspirer les données. Ça correspond à quoi, techniquement, même ?
Techniquement, c'est en général utiliser des petits programmes qui sont faits pour recueillir automatiquement un nombre de données important. Typiquement, ça va prendre 30 secondes, alors qu'à la main, ça nous aurait pris 2, 3, 4 heures. Et donc ça, c'est des petits programmes qui sont faits explicitement pour ça, et pour ensuite pouvoir rendre ces données plus facilement cherchables et plus facilement analysables, en fait.
Est-ce que ce type de journalisme est moins individualiste qu'auparavant ? Est-ce qu'il faut être, au fond, en équipe plus collaborative pour permettre de travailler dans ces masses de données ?
Alors, moi, je pense que c'est indiscutable. Aujourd'hui, on est véritablement avec cette nouvelle forme de journalisme, on est évidemment dans l'ère de la collaboration entre les différents médias. Enfin, on le voit par exemple avec les Panama Papers, où ça a été la collaboration de centaines de journalistes. Et en réalité, en fait, face à autant de données, face à des millions de mails et des millions de données. Avant, on pouvait avoir des rédactions qui allaient mettre en commun leurs forces au sein même de la rédaction. Mmh. Aujourd'hui, on voit avec il y a une mondialisation et une collaboration entre les rédactions dans les pays, parce qu'on voit bien que ce qui est le plus important, c'est l'intérêt informatif, c'est de sortir ces informations. Et on voit très bien dans tous les leaks qu'on peut sortir qu'il y a une mise en commun des forces. Par exemple, en France, ça pouvait être Le Monde ou Mediapart. Mais après, cette habitude de collaborer entre les rédactions, elle vaut aussi pour les sujets à plus petite échelle. C'est-à-dire que moi, je pense à l'affaire Baupin, où c'est une collaboration entre France Inter et Mediapart. Nous, on a pu le faire à BuzzFeed avec Mediapart pour, pareil, on avait récupéré des données, des mails de l'équipe de campagne du Front National et on a pu travailler et sortir des informations en commun. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus l'idée du journaliste qui avait allié seul, mais il y a l'idée que l'intérêt, c'est de sortir l'information et que du coup, autant qu'on ait une solidarité et qu'on puisse travailler ensemble pour avoir le plus d'efficacité possible.
Mais c'est important de revenir peut-être sur cette distinction. Là, vous l'avez dit, on parle des leaks, vous parliez de l'affaire Baupin, des mails, les Panama Papers, les Paradise Papers, c'est des fuites de données, c'est-à-dire des données qui n'étaient pas supposées être en accès libre. Il y a eu une fuite. Tout à l'heure, vous parliez d'une donnée open source. On peut prendre l'exemple, par exemple, des Pharma Papers, qui est un exemple typique où finalement on a une journaliste qui s'appelle Rosaine Le Saint qui se dit il faut que je regarde un petit peu comment fonctionnent les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins, et elle se rend compte qu'il existe depuis le Mediator une base de santé qui s'appelle Transparence Santé, où sont censés être répertoriés tous les liens qui unissent les labos pharmaceutiques aux médecins. En réalité, c'est une base tellement indigeste, où on est tellement difficile, tellement mal rangée, et d'ailleurs sans doute à dessein, qu'on peut pas y trouver l'information qu'on y cherche, et que peu de choses apparaissent. Et en réalité, elle va se mettre à travailler avec un data scientist, donc là où on parle de collaboration, pour essayer de rendre digeste quelque chose qui n'est pas caché, qui est tout simplement public, mais tout à fait indigeste, et c'est là qu'elle va réussir à sortir toute une série d'infos sur tous les médecins qui ont défendu des médicaments comme le Levothyrox, par exemple, ceux qui signent des tribunes dans le monde, la plupart du temps, ils étaient liés au laboratoire qui finalement avait sorti ce médicament. On peut réussir à voir qui sont les entreprises qui dépensent le plus pour les médecins, et par exemple, elle va mettre au point un moteur de recherche, et dans ce moteur de recherche, vous pouvez rentrer le nom de votre dentiste, de votre médecin, de votre gynéco, et regarder s'il a assisté à un colloque, s'il a déjeuné même avec simplement quelqu'un d'un labo, s'il a été payé. Ce qui en soi sont des informations qui sont existantes, mais qui sont très difficiles à trouver. Et donc ça, c'est encore une autre type, finalement, de journalisme. C'est un journalisme qui, finalement, apporte une information, en tout cas, met à disposition une information.
Alors, on parle ce soir du journalisme de données au sens large, du journalisme à l'âge des données, à l'âge numérique. Ces techniques qui renouvellent le journalisme par l'exploitation de données statistiques. On peut prendre un certain nombre d'exemples concrets. Je pense au scandale des notes de frais des parlementaires britanniques qui ont été révélées par la presse donc anglaise. Je pense aussi à l'article du Seattle Times qui a valu d'ailleurs un prix Pulitzer à Michael Behrens et à Ken Armstrong. Ils avaient obtenu des informations données de masse selon lesquelles le nombre de décès dans l'état du Washington était lié à une surdose d'un produit appelé méthadone, antidouleur prescrit aux bénéficiaires de Medicaid. Medicaid étant l'aide pour les personnes les plus pauvres. Et on leur avait donné ce médicament pour des raisons, évidemment, d'économie. Et donc, cet article avait révélé ce scandale d'une certaine manière. De votre côté, Jules Darmanin, vous avez fait une enquête pour Le Monde récemment sur le suicide en liaison avec des numéros surtaxés. Alors, comment vous avez fait et qu'est-ce qu'on découvre dans ce type d'études?
Alors, donc, c'est une enquête sur des entreprises qui créent des numéros surtaxés à destination des personnes en détresse, des personnes dépressives et des personnes suicidaires en achetant des publicités sur Google.
Donc, ça veut dire qu'elles remontent dans les moteurs de recherche.
Elles sont bien au-dessus dans les moteurs de recherche
que les associations.
Que les associations bénévoles. Ouais. Et c'est des numéros surtaxés qui sont donc à 80 centimes la minute. Et donc j'ai d'abord juste découvert l'existence de cela. Et ensuite j'ai essayé de remonter en fait via des informations qui étaient présentes sur les sites. Parmi ces en fait il y a une base de données qui s'appelle la base de données WIS, qui permet de savoir qui a déposé un nom de domaine. C'est-à-dire un nom de domaine, c'est l'adresse que vous tapez dans le navigateur. Et donc cette base WHOIS permet d'avoir plus d'informations, mais elle permet pas d'avoir toutes les informations. Ensuite, on va chercher un peu à droite à gauche, et c'est grâce au profil Facebook d'un responsable de ces sites que j'ai pu en fait établir qui était derrière ce réseau, enfin un de ces réseaux de sites. Et il se trouve que sur son profil, il avait son numéro de portable, donc j'ai pu l'appeler directement. Donc, en fait, ça permet d'avoir un accès beaucoup plus facile à des sources.
Et là, en l'occurrence, les personnes en détresse étaient abusées par des sociétés qui, bon, même si elles répondaient en même temps à un certain nombre de leurs demandes, étaient très en marge de ce qu'on peut attendre d'un service social, en tout cas digne de ce nom, quoi.
Oui, ou en tout cas qui ensuite un certain nombre de ces personnes, ça c'est comme on dit les bénévoles des associations, un certain nombre de ces personnes se sont rendus compte a posteriori qu'elles avaient des factures. Et évidemment, quand on est non seulement une personne en détresse, mais qui en plus contacte des numéros d'appel, c'est en général qu'on a relativement peu de ressources. Donc c'est souvent des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui du coup ont des difficultés à payer ces factures ensuite mirobolantes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h30 en direct sur France Culture. Jules Darmanin, journaliste coordinateur de factcheck.eu, et David Perrotin, journaliste chez Loopsider, sont mes invités ce soir. On est avec Zoé Sfez en direct. Alors on parle notamment du journalisme de données, du renouvellement, comment le journalisme se renouvelle par l'exploitation des données statistiques. David Perrotin, alors on voit à la fois que ça permet de faire émerger de nouveaux sujets, de nouvelles façons aussi d'écrire sur ces données.
Oui, exactement. Par exemple, moi je pense que j'ai un exemple très concret, c'est le travail de David Dufresne, par exemple. C'est très intéressant de voir le traitement aujourd'hui des médiatiques des violences policières et ce qui, en fait, ça change aussi le rapport de force. C'est-à-dire que David Dufresne, il a décidé de compiler ces données, c'est-à-dire, alors là, c'est des données, ce qui est plus classique, c'est pas des fichiers de l'administration, mais c'est des vidéos, des témoignages qu'il va tenter de recouper. Donc c'est un travail très classique de journaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a décidé de prendre à bras le corps le sujet et de dire voilà, moi je vais compiler ces données, je vais les recouper et en fait c'est la masse qui va faire sens. Et donc c'est au début quand on suit le travail de David Dufresne, je parle parce que moi je suis depuis très longtemps les questions des violences policières et que j'ai pu à l'époque de la loi travail, on avait fait un tableau pour justement donner plus de sens sur BuzzFeed pour montrer que la question des violences policières était assez importante. On avait fait le même type de travail sur les blessés au flashball, à l'époque c'était le flashball, maintenant c'est le LBD 40. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que par cette masse de données, il a impulsé un nouveau rapport de force, c'est-à-dire que le gouvernement, donc là, c'est en l'occurrence, c'était le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, refusait de répondre sur la question des violences policières, etc. Et au bout d'un moment, quand on a 400, 480 cas qui sont recensés, où il a mis ça en perspective, c'est qu'il a justement essayé qu'on puisse visualiser le mieux ces données, donc Mediapart a fait un travail d'infographie, etc., pour le mettre en perspective.
Avec Karine Bastien, on peut le dire d'ailleurs, oui, tout data, voilà. Ils sont passés par elle. Typique exemple d'un journaliste qui passe par une agence de data pour finalement rendre plus lisible un travail que lui fait depuis assez longtemps et se met en lien donc avec Mediapart.
Voilà, et ce qui est très intéressant du coup avec ce travail collaboratif, c'est que au bout d'un moment, grâce à cette masse de données, le gouvernement ne peut plus esquiver. C'est-à-dire que les violences policières, c'est une question que de tous les gouvernements ont esquivé cette question. Et là, ça prend sens. Les gens ne peuvent pas... en fait, ça met en lumière un système. C'est plus des bavures policières, comme on pouvait le dire à l'époque. Là, c'est peut-être des violences policières systémiques. Et donc ça, c'est véritablement grâce à ce travail, à cette approche des données et ce qu'on en fait.
Alors là, vous avez parlé d'un de vos confrères, parlons d'une de vos enquêtes que vous avez faites pour BuzzFeed, celle concernant l'Avenue. L'Avenue, c'est un café un peu d'ailleurs chic, bobo, à Paris. Et donc là, vous travaillez sur un certain nombre de témoignages, de journalisme de base. Simplement, vous mettez en accès ensuite, lorsque vous publiez l'article, tout un tas de données. Donc, c'était quoi l'histoire et qu'est-ce que vous mettez en ligne ?
Alors l'histoire, c'est donc l'Avenue, un des restaurants du groupe Cost, donc c'est des restaurants assez chics dans tout Paris. Et en gros, en l'occurrence, l'information, c'est que ils discriminent une partie de leur clientèle, donc notamment des femmes voilées, des personnes qui ont un nom selon eux à consonance arabe. Et donc du coup,
lorsque ceux-ci appellent pour avoir une réservation,
exemple,
c'est plein.
Ils appellent, voilà, c'est plein. Et si jamais le filtre n'a pas fonctionné au début, les deux personnes, par exemple une femme voilée, arrivent devant le bureau de réservation dans le restaurant et on lui dit ah ben non, finalement on s'est trompé, on n'a pas pris votre réservation. Donc là il y a une enquête encore en cours. Mais donc ce qui est là, je dirais que c'est aussi une nouvelle forme d'écriture, c'est-à-dire qu'en réalité c'était un peu la politique qu'on avait à BuzzFeed, c'était d'être très transparent. C'est-à-dire que on a une enquête et certains médias vont peut-être dire d'après nos informations, on sait que. Nous, c'était, et c'est un peu, je pense, le journalisme, les méthodes anglo-saxonnes, c'est-à-dire que on va être très transparent, moi, en l'occurrence, dans cette enquête, j'ai publié les captures écran de messages de la direction qui ordonnait de discriminer cette clientèle, une photographie partie du cahier de réservation. Enfin, voilà, c'est à la fois utiliser toutes les ressources que nous offre Internet, donc la vidéo, les photos, il y a des enregistrements. Et c'est aussi, je pense, une façon de lutter contre la défiance de plus en plus grande envers les médias. C'est-à-dire que, et on le voit notamment, je vais faire un lien avec l'actualité, mais les gilets jaunes, c'est que la profession de journaliste et les enquêtes sont souvent remises en cause. On parle de l'ère de la post-vérité, des fake news, etc. Et je pense que on va moins, les articles sont moins écrits, peut-être sont, il y a la forme est moins arrangée, c'est-à-dire que par exemple l'enquête des candidats FN, l'enquête est vraiment, c'est une enquête fleuve, donc il faut vraiment s'accrocher pour la lire et voir toutes les preuves, lire les captures écran. Mais nous, on pense que c'est une façon aussi de lutter contre cette défiance.
Mais d'une certaine manière, le journalisme classique protégeait ses sources, et là, c'est comme si le journalisme de données donnait accès à ses sources.
Alors, je pense que c'est parfaitement complémentaire. Si on prend l'enquête de l'avenue, les sources sont totalement protégées. Il y a des serveuses qui ont témoigné. Elles, leur identité n'a pas été dévoilée. En revanche, dès qu'on peut publier des preuves, si je puis dire, on le fait. C'est-à-dire, et aussi, dès qu'on peut ne pas anonymiser une source. Il y a pas une habitude. On veut pas systématiser le fait d'anonymiser les gens. C'est-à-dire que, par exemple, une source qui va dénoncer quelque chose, on va la questionner. On va lui dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas que votre nom apparaisse? Et si jamais on l'anonymise, on va dire pourquoi. Il y a vraiment un exercice de transparence qui est fait dans ces enquêtes, quoi.
Sur ces questions, Jules Darmanin.
Oui, c'est vrai que c'est il y a une culture traditionnelle de l'anonymisation systématique des sources, même pour des informations complètement anodines, dans la presse traditionnelle française.
Plus française qu'anglo-saxonne d'ailleurs.
Beaucoup plus française qu'anglo-saxonne d'ailleurs. Le fait est que BuzzFeed étant un média d'origine américaine, il était indiqué dans notre charte éditoriale que si une source était anonymisée, on devait systématiquement dire pourquoi.
Ce qui se passe dans le New York Times, par exemple.
Ce qui se passe, par exemple, dans le New York Times, ce qui est une pratique assez courante aux États-Unis, c'est-à-dire que si une source demande à être anonyme parce qu'elle a peur de perdre son emploi, si on révèle son nom, il faut qu'on l'écrive texto dans l'article. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent dans les colonnes indiscrètes de la plupart des hebdomadaires français, où c'est que des sources anonymes.
C'est que des un proche.
C'est que des un proche. Alors, les gens qui sont au courant savent en général qui est le proche, mais le public ne le sait pas. Et ça, je pense que c'est un facteur qui augmente la défiance face aux médias. Et donc, l'avantage quand même, c'est que nous sommes sur Internet, donc notre place est techniquement illimitée, ce qui nous permet de mettre le maximum de preuves possibles pour dire aux gens, voilà, on vous a donné tout ce qu'on pouvait vous donner, vous pouvez vous faire votre opinion à partir de ça, mais on vous a vraiment donné tout ce qu'on pouvait.
Autre exemple plus récent, l'enquête, le travail d'enquête qui a été fait principalement sur le web concernant les gilets jaunes. David Perrotin.
Bah là c'est assez intéressant parce que les journalistes traditionnels, alors je veux pas du tout mettre tout le monde dans le même sac, mais on a vu qu'il y a eu un rattrapage qui a dû être fait de certaines rédactions parce que c'est des journalistes
qui n'avaient pas compris le mouvement, voilà, et son ampleur, etc.
Au début, les gens qui se sont intéressés aux gilets jaunes et qui ont suivi ça, ils les ont suivis d'abord sur Twitter, d'abord sur les réseaux sociaux,
d'abord sur les groupes Facebook.
Et les groupes Facebook, c'est-à-dire qu'il y avait un compte rendu de fait, je pense au travail de Vincent Glade sur cette thématique des gilets jaunes où il rendait compte sur Twitter et après il en a fait des articles. Ce qui était intéressant, c'est que je pense que peut-être que certains journalistes, soit il y avait une forme de mépris ou peut-être une méconnaissance aussi, il y a peut-être un clivage générationnel sur comment on peut utiliser ces réseaux sociaux, comment on sait les utiliser, donc de traiter les gilets jaunes par le prisme du réel, c'est-à-dire il y a une magnifique enquête de Florence Omnas sur un travail d'enquête sur les ronds-points.
Sur les ronds-points, oui.
Voilà, avec les gilets jaunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est parfaitement complémentaire qu'une enquête sur les comptes Facebook des gilets jaunes. C'est-à-dire que, véritablement, suivre les lives Facebook de Jérôme Rodriguez, des leaders, et regarder les commentaires, par exemple, des comptes Facebook, c'est un véritable travail d'enquête et de reportage. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va souvent, les gens disent, oui, le nombre, ils sont très peu dans la rue, donc on donne beaucoup d'importance. Mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris l'importance d'Internet et l'importance de tous ces groupes et de ces comptes Facebook. Et il y avait un article intéressant qui rappelait que le mouvement des jeunes reposait sur les lives Facebook. Et il y a une vraie question aujourd'hui sur ce qu'est le journalisme. Il y a, pareil, je pense aux médias bruts, par exemple, avec Rémi Buzyn, qui est critiqué parce que il donne une image, bah, justement, brute, sans commentaire, et il interviewe les gilets jaunes dans la rue chaque samedi. Et c'est critiqué parce qu'il y a l'idée qu'on met pas en perspective cette information, etc. Mais en réalité, quand vous allez dans les comptes Facebook des gilets jaunes, cette info, elle est mise en perspective dans les commentaires. C'est-à-dire qu'elle est accompagnée, qu'elle est, et du coup, ça, c'est une nouvelle, je pense, forme de journalisme qu'on, et ça exige des nouvelles compétences des rédactions traditionnelles.
Jules Darmanin?
Oui, je pense qu'il y a aussi un problème du fait que ça se passait sur Facebook et non pas sur Twitter. Les journalistes sont tous sur Twitter, même ceux qui, même des journalistes papier qui n'écrivent pas sur le web. En revanche, sur Facebook, il y a un problème d'ailleurs qui est quelque chose qu'on a utilisé pour critiquer les gilets jaunes, c'est que les journalistes eux-mêmes, dans leur utilisation de Facebook, ont une utilisation personnelle. Donc, ont un biais qui consiste à penser que ce qu'ils voient sur Facebook, c'est ce que tous les Français voient sur Facebook. Alors que c'est pas vrai du tout. Suivant la génération, suivant le milieu social, suivant le pays, on a des utilisations qui sont très très variées et très différentes de Facebook. Et ça demande un vrai effort de recherche beaucoup plus important que sur Twitter pour accéder à ces utilisations qui sont celles des gilets jaunes, donc qui sont les live Facebook, les groupes Facebook, et qui sont spécifiques à ce mouvement-là.
Il est quand même intéressant de rappeler aussi qu'après que les médias aient porté leur attention sur ces groupes, il y a un certain nombre de groupes qui ont décidé soit de passer en mode pas public, soit de se fermer et d'avoir un administrateur, ce qui a suscité des débats au sein même du mouvement. Mais c'est aussi pour dire que qu'effectivement, cette question de l'attention, même parfois certains des gilets jaunes, par ailleurs, eux aussi, comme nos amis du député du Front National de tout à l'heure, n'ont pas conscience en réalité du caractère public de leur activité politique, y compris sur Facebook. Donc c'est à la fois une manne pour les journalistes. Et voilà, ce rapport-là sur la question de ce qui est public et ce qui n'est pas et la manière dont tu l'utilises continue encore aujourd'hui d'alimenter réellement la vie politique en France.
David Perrotin, un mot sur un autre exemple, celui de la Ligue du LOL, qui a été scoop, qui a été révélé récemment, notamment par Robin Andraka, auteur de cette enquête sur la Ligue du LOL. Et là aussi, il s'appuie sur des données disponibles, mais qu'il va rechercher.
Là, ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, c'est que oui, tout était disponible, enfin, à part les nombreux messages qui avaient été effacés. Mais la réalité, c'est que vous avez, quand, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Robin Draca, c'est la cellule Check News de Libé, et c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, et on l'a vu d'ailleurs, la Ligue du LOL, ce que ça raconte aussi une génération de journalistes. Une génération de journalistes qui a commencé sur ces réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Et en fait, il fallait quand même être très averti, et il fallait comprendre ce qu'était le Twitter de 2010 pour pouvoir enquêter dessus. Et, je pense qu'il y a beaucoup de rédactions qui ont entendu parler de la Ligue du LOL, qui, peut-être ont côtoyé certaines victimes qui ont dit, mais là où ça a pris sens, c'est quand ce journaliste a fait un travail d'enquête, c'est-à-dire d'essayer de retrouver les messages, d'interroger les certaines victimes, et puis après c'est surtout, en fait j'ai envie de dire là on rejoint sur les données, c'est-à-dire qu'en fait ce qui a véritablement créé l'affaire de la Ligue du LOL, c'est que c'est la permission pour les victimes de témoigner sur Twitter. C'est-à-dire que l'enquête initiale de Check News sur la Ligue du LOL, c'est que le début en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on pointe un peu les responsabilités, on donne des noms, mais ce qui a fait émerger et ce qui a fait que certains sont tombés, et notamment Vincent Glade, dont, que je citais tout à l'heure, mais je préfère préciser que qu'il est tombé,
qu'il a été critiqué en tout cas dans cette affaire.
Il est toujours debout, en tout cas. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est la permission pour les victimes de témoigner, et après, on a pu avoir l'histoire, dérouler le fil et voir et utiliser ces témoignages-là qui ont été sur Twitter ou via des blogs ou via Facebook pour pouvoir reconstituer un petit peu ce qu'était la Ligue du LOL.
C'est très intéressant que vous ayez utilisé le mot scoop, parce qu'en réalité, ce papier n'avait rien d'un scoop. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en plus, parmi les victimes de la Ligue du LOL, il y a plusieurs personnes qui sont devenues des personnalités très écoutées, notamment Daria Marx, qui est une militante contre la grossophobie, qui régulièrement, mais très régulièrement, tweetait sur la Ligue du LOL. Et donc, c'est finalement un journaliste de Libération, où il y a deux journalistes qui sont concernés, qui est un média qui lui-même finalement est concerné par cette question de la Ligue du LOL, qui finalement fait un article, d'une certaine manière peut-être, pour répondre à des questions qui se pose en interne, qui finalement permet de susciter l'intérêt sur des informations qui, pour beaucoup, étaient publiques. Il faut aussi, et ça c'est très intéressant, noter que sur le Twitter de 2009 ou de 2010, on écrivait des choses qu'on n'écrirait probablement plus aujourd'hui parce que justement elles sont publiques. Rappelez-vous même, c'est assez lié de ce moment où il y a eu une espèce de fausse rumeur où on disait que vos messages privés étaient devenus publics sur Facebook. Est-ce que vous vous rappelez de ça il y a deux ans? En réalité, ce n'était pas des messages privés, c'est simplement qu'à l'époque, on écrivait des choses sur les murs des gens, au vu et au su de tous, qu'on n'écrirait absolument pas.
On se souvient aussi de la première fois où, pourtant c'était assez tardivement, le patron, je ne dirais pas de quel groupe, mais disons, entre la Fnac, Carrefour et Darty, quelque chose comme ça, qui tweet un message perso, mais qui le met à tout le monde, en confondant la fonction message direct et message collectif. Autre exemple aussi, Manuel Valls, quand il arrive à Matignon, il efface tous ses tweets, comme ça, plus de problème, il repart à zéro. Premier tweet.
Ou Bruno Roger Petit qui change de compte. Enfin, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ça me rappelle lorsque le Lab existait, donc qui était rattaché à Europe 1 et qui portait vraiment sur les questions des réseaux sociaux. Un journaliste avait posé la question à François Hollande sur son utilisation sur Twitter et il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents lors de cette conférence de presse qui rigolaient un petit peu, qui se moquaient un petit peu de cette question. Et en réalité, on voit aujourd'hui l'essor qu'a pris l'utilisation de Twitter. C'est-à-dire que c'est un outil politique très 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 important pour toute la classe, le gouvernement, et du coup on voit que maintenant il faut composer avec ça. Donc vous avez des éléments de langage, vous avez une utilisation politique qui est liée à la communication, alors ce qu'on n'avait pas forcément avant, c'était peut-être plus sincère avant et du coup l'utilisait moins, mais du coup ça force aussi les journalistes à s'emparer de ces réseaux, et les gilets jaunes, j'ai envie de dire, ça a forcé les journalistes à regarder Facebook.
Alors une petite parenthèse sur quelque chose qui n'est pas exactement pareil, mais qui a une grande influence, je pense, à ces sociétés, pour le coup relativement chères, donc c'est des outils auxquels tout le monde ne peut pas accéder. Ça s'appelle Brandwatch, ça s'appelle KB Crawl, ça s'appelle Maltego. Ce sont au fond des sociétés à laquelle on peut adhérer, qui permettent d'effectuer des recherches automatisées massives sur les réseaux sociaux. Pour aller vite, elle va regarder un certain nombre de comptes. Ces comptes, elle va remonter non seulement sur tout ce que le compte a posté, sur tous les likes qui ont été postés, mais aussi sur tous les amis, les abonnés, toutes les personnes qu'elle suit, toutes les personnes qui la suivent, etc. Et tout ça sur 3-4 niveaux, voire beaucoup plus. Et en réalité, en faisant ce type de travail, évidemment c'est de l'intelligence souvent économique, peut-être même de l'intelligence policière, c'est pas exclu, elles permettent d'obtenir des graphes et des informations illimitées sur quelqu'un, et il faut vraiment avoir été, en plus elles le font sur tous les comptes de la personne, donc sur son Facebook, sur Google+, elles vont le faire sur Twitter et d'autres choses comme par exemple des sites d'annonces, etc. On va arriver à avoir une connaissance presque parfaite de la personne, alors même qu'elle n'a peut-être rien dit d'elle-même. On va savoir sa sexualité, on va connaître ses centres d'intérêt, si elle mène des affaires dans un certain nombre de pays, si elle a des inquiétudes par rapport à tel type ou tel autre de déontologie économique, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ces sociétés par tout un tas d'acteurs, en fait, de l'intelligence économique?
Oui, en fait, c'est des sociétés qui proposent des services pour enquêter, donc c'est à la fois utilisé pour de l'intelligence économique. Il y a certains de ces logiciels qui sont utilisés par la police et aussi, du coup, parfois par des journalistes d'investigation. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, on en parlait un peu tout à l'heure, ça permet juste d'automatiser des choses qu'on aurait pu faire à la main. Ouais. Mais qui aurait pris un temps faramineux. Après, ça dépend aussi pour qu'on l'utilise. Moi, j'utilise ça très peu parce qu'en général, je me concentre sur une personne et sur un type d'action. Et je suis pas vraiment, enfin, je travaille pas dans l'intelligence économique.
Pas encore.
Il y a une actualité qui est intéressante par rapport à ça. Il y a une entreprise qui s'appelle LexisNexis, qui est une entreprise qui donne accès à une base de données qui est pas mal utilisée par les médias anglo-saxons. Et il y a quelques semaines, LexisNexis a indiqué que son service serait fermé aux journalistes. C'est-à-dire qu'il est accessible, par exemple, aux gens qui récupèrent les dettes, aux collecteurs de dettes, ou à des détectives privés. Mais ils ont indiqué que les journalistes d'investigation, c'était plus possible. Et ça a choqué évidemment un peu la communauté des journalistes d'investigation, notamment en Angleterre, pour dire l'importance de certains de ces outils pour le journalisme.
David Perroutin, sur cette question.
Je pense que là où, en fait, il y a deux choses. Là où ça fait pas peur, c'est que je pense que le travail du journaliste, c'est aussi de faire attention. Il y a des principes déontologiques qui régissent le métier, et c'est là aussi où on doit pas faire n'importe quoi et on peut ne pas faire n'importe quoi. Donc, tant que les principes seront solides et rigides, moi, ce genre de choses, ça me fait pas peur. Évidemment que ça peut être utilisé à mauvais escient, etc. Mais en tant que journaliste, c'est de la même façon que on n'irait pas écrire n'importe quoi si on avait des informations en dehors de ces outils. Là, c'est pareil. Là, moi, ce qui m'interpelle davantage, c'est, je pense que ça pointe l'idée qu'il faille davantage d'éducation à Internet, aux médias. Je pense que c'est là la clé. C'est-à-dire qu'en plus, ça rejoint tout. Il faut éduquer les enfants à cette utilisation qu'on a des réseaux sociaux, d'Internet, leur expliquer que oui, on peut tous avoir deux. Parce que quand vous avez une candidate, une tête de liste qui tombe parce que elle se rendait pas compte de ses messages racistes, c'est parce qu'elle savait pas que elle avait pas les moyens d'utiliser ça. Donc tant mieux qu'elle soit tombée pour ça, parce que
elle aurait pu aussi savoir que c'était des messages racistes.
Et en plus, ouais, c'est ça.
Avant même le problème de savoir qu'on regarderait ses likes ou ses tweets.
Voilà, mais je pense qu'il y a une véritable éducation à Internet à mener et aux médias. C'est-à-dire que on ne peut pas écrire n'importe quoi sur Internet. Aujourd'hui, on peut tout savoir. Il faut savoir aussi se protéger. Il faut protéger sa vie privée une époque avec le revenge porn, etc. Il faut se méfier d'Internet et du coup savoir se protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent pas se protéger.
Est-ce qu'il y a un risque que ces journalistes de données deviennent ou soient, ou est-ce qu'ils le sont, ou est-ce qu'ils l'assument, des hackers? Et là, je renvoie un peu au travail qu'on peut faire aussi, on n'en a pas parlé, c'est peut-être le dernier sujet pour ce soir, mais il y a des webs qui ne sont pas totalement autorisés. Je pense d'abord à tout ce qu'on appelle le deep web. Là, il s'agit d'articles ou de données qui ont été déréférencées. C'est par exemple un post que vous avez mis puis que vous avez enlevé, mais il y a des outils qui permettent de le retrouver. Et d'autre part, ce qu'on appelle le dark web, alors là, pour le coup, c'est non référencé par le réseau primaire du web, mais c'est possible de le trouver dans d'autres cas. Alors ça concerne par exemple la vente de la drogue ou la prostitution illégale sur Internet. On va vers des hackers, David Perroutin, Jules Darmanin.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors le deep web, ça dépend ce qu'on met derrière ça, mais c'est vrai que il y a, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière.
C'est un article qui a été publié. Quand on le retrouve, d'une certaine manière, on reste dans une forme de légalité puisqu'il a existé.
Il y a des services d'archives, notamment il y a une association qui archive la plupart des pages publiées sur Internet et qui est très utile pour
voir des choses. Vous savez que même la Bibliothèque nationale de France ainsi que l'INA pour les vidéos sont chargées de conserver une partie des pages internet.
Après, il y a aussi donc ce qu'on appelle le dark web, donc qui n'est pas accessible par les moyens traditionnels d'accès à Internet, mais qui peut être accessible par ce qu'on appelle le réseau Tor. Et là, on peut effectivement tomber à la fois sur des choses légales et sur des choses illégales. Mais comme sur l'Internet normal, on peut aussi tomber sur des choses illégales. La question, et ce n'est pas faire du hacking que d'accéder au dark web. Ça dépend aussi ce qu'on y fait et ce qu'on peut faire un peu plus de recel de certaines bases de données qui peuvent être fuitées. Et notamment, je voulais juste parler justement du site Bellingcat, qui est un site qui fait beaucoup de journalisme en source ouverte et qui a notamment révélé l'identité des assassins présumés monsieur, j'ai oublié son prénom, Skripal, en Grande-Bretagne.
Cet espion russe.
Voilà. Les assassins présumés qui sont deux membres du GRU, donc une agence d'espionnage russe. Et donc, une partie des données qu'ils ont utilisées pour retrouver les vraies identités de ces personnes sont des fichiers, par exemple, de résidence ou des fichiers de carte grise russes qui ont fuité. Et donc qui ont été obtenus par des moyens dont on peut douter de la légalité.
Sur ces questions, David Perroutin.
Moi, je vais encore une fois être optimiste, mais quant à l'importance, par exemple, des hackers ou des fichiers illégaux qu'on aurait pu obtenir, En fait,
il y a toutes les questions de déontologie.
Ben c'est ça, en fait. Encore une fois, c'est-à-dire que, en fait, quand on est journaliste, il y a plein de documents qu'on ne devrait pas avoir. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait.
Il y en a beaucoup qu'on ne publie pas, d'ailleurs.
Et c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Souvent, le public ne sait pas tout ce qu'on ne publie pas. Mais par exemple, les Macron Leaks, c'est d'une fuite qui est a priori illégale. Sauf que après, évidemment, il y avait une question de ne pas les utiliser avant la campagne. Mais aujourd'hui, ils ont éclairé des affaires comme l'affaire Benalla, où on a pu les utiliser quand on a pu recouper. Évidemment, s'assurer de la fiabilité des informations obtenues. Et en réalité, au-delà de du dark web ou du hacking, un enregistrement comme l'affaire Benalla pour Mediapart que Mediapart a diffusé entre Vincent Crase et l'affaire Benalla, c'est quelque chose dont on ne sait, on connaît pas la légalité de et on connaît même pas les conditions dans lesquelles ça a été enregistré. Donc le journaliste, il a toujours opéré un choix sur l'intérêt du public, l'intérêt informatif et la légalité et est-ce qu'il peut s'en servir ou pas. Donc ça, je pense que c'est des questions qui restent et qui resteront.
Pour terminer cette émission, peut-être une question un peu de fond. Est-ce que vous pensez qu'on est là au cœur de l'avenir du journalisme? Est-ce que tout le monde va devenir, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler un digital journaliste, l'un et l'autre, Jules Darmanin peut-être pour
Je commencer. Pense qu'on a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que moi je suis arrivé dans le journalisme, ma première expérience en rédaction c'était en 2012. À aucun moment je me dis que je n'allais pas travailler sur Internet ou que j'allais travailler en dehors d'Internet. Et je pense qu'encore une fois, ça peut toujours être croisé. En fait, c'est juste un terrain de plus. C'est pas juste un média sur lequel on va écrire, c'est aussi un terrain de plus. Et j'espère que l'intégralité des étudiants en école de journalisme considère ça aussi comme un terrain et pas juste comme un format, comme on peut avoir la radio ou la télé, comme un terrain sur lequel enquêter. Je pense que ça, c'est un mouvement qui s'est opéré ces dernières années quand même.
David Perroutin, pour conclure.
Je pense que de la même manière que Internet prend une place prépondérante et dans la vie de chaque citoyen, en réalité, elle prend une place aussi importante pour chaque journaliste. Et là où j'y vois quelque chose de très optimiste, c'est que moi, je trouve ça génial que les citoyens soient acteurs de l'information, c'est-à-dire quand ils publient des témoignages, etc. Quand on voit des affaires comme MeToo, ces réseaux sociaux permettent aussi de ne pas isoler les victimes, qu'elles témoignent. Et après, il y a un véritable travail journalistique à faire dessus. Et du coup, je pense qu'il y a une complémentarité qui fait que c'est assez enthousiasmant de se dire que...
Dans cette génération-là aussi.
Exactement, ouais.
Merci infiniment à tous les deux. Jules Darmanin, journaliste, coordinateur de factcheck.eu, qui va bientôt être en ligne. David Perroutin, journaliste chez Loopsider. Merci pour votre présence ce soir. Dans un instant, seconde partie de Soft Power, qui continue finalement, Zoé 16, sur ces questions avec votre invité et invitation.
Invité data journaliste, elle s'appelle Karen Bastien. Elle est la cofondatrice de We Do Data, une agence de data visualisation qui travaille essentiellement d'ailleurs avec des médias pour mettre en valeur des jeux de données existants ou à créer.
20h10, le club de la presse numérique, et nous parlons ce soir du rapport qui vient d'être rendu par l'autorité de la concurrence sur l'audiovisuel français, notamment dans ses aspects numériques. Et nous serons pour en débattre avec Emmanuel Paquet de L'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après André Prévin sur France Culture. À l'instant, un extrait du film My Fair Lady, que vous aurez reconnu sans doute d'après la comédie musicale de Broadway, dont certains titres, celui qu'on écoute, ont été composés par André Prévin pour le film. Le musicien et chef d'orchestre américain d'origine allemande de réputation mondiale est mort cette semaine à l'âge de 89 ans. Un peu comme Leonard Bernstein, auquel sa carrière fait écho, André Prévin était à la fois un très grand chef d'orchestre de musique classique, un compositeur de comédie musicale et un pianiste de jazz virtuose. Il a aboli les frontières, excellé dans plusieurs genres et laisse une œuvre majeure comme compositeur et comme chef d'orchestre. Les films furent également sa passion. On lui doit donc l'adaptation musicale de My Fair Lady ou les bandes originales de Porgy and Bess, souvent en arrangeant, orchestrant ou adaptant des morceaux célèbres, comme c'est le cas avec le morceau de Gershwin que nous écoutons, qu'il a dirigé. Ce fut aussi un homme à femme qui s'est marié plusieurs fois et a eu de nombreux enfants, dont trois avec l'actrice Mia Farrow. Sa cinquième femme n'est autre que la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter. Comme tous les génies multitalents, André Prévin dérangeait également. Les jazzmen le trouvaient trop classique à leur goût, le monde du classique trop populaire. Et surtout, il restera comme un chef d'orchestre, parmi les plus grands chefs de sa génération, notamment à la tête du London Symphony Orchestra, de la Pittsburgh Symphony, de la Los Angeles Symphony ou encore du Royal Philharmonic Orchestra, dans Barber, Fauré, Ravel, Debussy et bien sûr Gershwin, que l'on écoute, ou Copland, il excellait. Et ses partisans de Berlioz, Brahms, ses partitions pardon, de Berlioz, Brahms ou Strauss restent mémorables. André Prévin est décédé ce jeudi.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Karen Bastien.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes data journaliste, vous êtes cofondatrice de We Do Data. On vous reçoit ce soir pour continuer notre réflexion sur ce journalisme à l'heure de la donnée, à l'heure digitale. Cette agence, We Do Data, agence studio d'ailleurs, c'est une agence, vous dites, de data vis, de data visualisation. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit ça ?
Alors on parle d'un peu pour moi quelque chose qui est intrinsèquement lié au data journalisme, c'est qu'à un moment on récupère de la donnée. On récupère de l'information et il me semble que le graphisme, la visualisation, c'est vraiment la meilleure forme pour transmettre cette information à nos yeux, puis à notre cerveau. Parce que finalement, récupérer des tableurs de chiffres et les restituer sur tableurs de chiffres, ça ne fonctionne pas vraiment auprès du public. Donc c'est vraiment pour moi voilà, un petit peu le couple, c'est la visualisation des résultats du data journalisme.
Alors sur le site de ce studio We Do Data, où on a une très bonne d'ailleurs idée de ce que vous faites, vous vous présentez dans la petite partie à propos et vous dites « je suis pas fan des chiffres au départ et je découvre le potentiel d'histoire cachée derrière les tableurs » parce que c'est la fin de la réflexion que nous menions avec vos deux collègues tout à l'heure. Vous avez été une journaliste vous avez été formée, on va dire, à un journalisme assez classique, centre de formation des journalistes, l'école de la rue du Louvre, qui probablement à l'époque devait proposer des cours de web, mais pas tellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière pour qu'à un moment donné vous en veniez à ça ?
Effectivement, un parcours très classique où la donnée n'était pas du tout présente. Je n'ai jamais ouvert un tableur Excel pendant mes études de journalisme. C'est plus, on va dire, la vie. J'ai été tout de suite attirée par les thématiques économiques et écologiques que j'ai, on va dire, explorées à Libération puis à Terra Eco. Et c'est deux thématiques où il y a beaucoup de chiffres. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Finalement, je porte ça même comme un peu une honte. Je sais interroger des gens, je sais interroger des situations, des zones de reportage, mais je ne sais pas interroger des chiffres. Et donc c'est une remise en question personnelle qui m'a menée à explorer ça personnellement et puis après collectivement avec mon équipe.
Alors justement, avant d'en arriver à une agence qui non seulement en fait s'occupe même plus de trouver les chiffres, mais d'une certaine manière de les restituer, de les intégrer, justement sur ce rapport par exemple aux chiffres et aux données de manière générale, vous avez vécu aussi ce moment où elles sont passées de disponibles parfois si on savait chercher où, à quasiment immédiatement disponible tout le temps. Ça a été quoi, disons, les jalons technologiques, les moments qui pour vous aussi marquent cette évolution des rapports aux chiffres nécessaires et puis d'un coup évidente, quoi ?
Il y a deux grands moments, peut-être. Il y a 7 ans, l'ouverture du portail Open Data français. Donc l'Open Data, la libération des données publiques, c'est un mouvement mondial. La France y est mise tardivement, données ouvertes. Et il y a 7 ans, ouverture du portail. Donc c'est quand même un moment où tout d'un coup, des milliers, centaines de milliers de jeux de données ont été disponibles. Et puis après, je dirais que le jalon, il est difficile à dater précisément. C'est plus progressif, c'est que année après année, on a eu accès à des langages informatiques, des outils qui nous ont permis d'aspirer de la donnée, d'avoir accès à de la donnée qui n'était pas, elle, mise en open data. Et c'est là où, en fait, on a pu compléter cette open data par de la donnée et des bases de données qu'on créait nous-mêmes.
Voilà, c'est justement ça, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est quoi aspirer de la donnée? On aspire de la donnée avec quoi et comment?
Alors, on aspire de la donnée avec des outils, des langages informatiques. Il faut savoir que le monde du web, au final, c'est une immense base de données. Quand vous allez tous les jours sur différents sites de réservation, d'hôtels, vous allez vendre des choses sur Internet, vous allez donner votre avis sur un restaurant, vous allez sur des plateformes et derrière, elles engrangent votre donnée, mais sous la forme de tableurs. Donc, ce qu'on fait, nous, avec nos outils, c'est tout simplement d'aller sur ces plateformes et finalement de récupérer la donnée que vous leur avez donnée, d'une certaine façon, et de recréer les bases qui sont derrière et qui sont, on va dire, l'essentiel de leur activité.
Parce que c'est ce qui est intéressant dans cette agence, vous travaillez pour différents clients, donc ça peut être des médias, mais ça peut être aussi des associations, ça peut être toute une foule d'acteurs, pour créer toujours des choses sur mesure. Alors parfois à partir de données que eux vous donnent, parfois en faisant ce que vous allez faire là, par exemple, c'est ce que vous me disiez, peut-être qui vous demande quoi, par exemple, qui vient en vous demandant, voilà, on a besoin de montrer des choses sur des données, mais on les a même pas.
Oui, alors ça peut être une entité qui a envie de, par exemple, de refléter l'activité économique française. Alors par exemple, une journée déjà, ne serait-ce que ça, une journée sur Le Bon Coin, qui est aujourd'hui le site qui a un nombre de transactions, qui a le plus de CV que Pôle emploi, qui vend des maisons, des voitures. Voilà, ne serait-ce que aspirer une journée du Bon Coin, ça vous dit beaucoup de l'activité économique et sociale des Français. Ou par exemple Twitter, hein, est bien sûr un lieu énorme de profusion de données, donc on sait aspirer Twitter, on peut aspirer le Twitter des députés. On l'a fait pour aider également David Dufresne,
dont nous parlions tout à l'heure.
Voilà, donc vous parliez qui effectivement avec Allo Place Bobo, qui a commencé en fait juste comme finalement une série de tweets d'interpellations du gouvernement. Puis finalement, nous on s'est rendu compte au fur et à mesure des semaines que c'était des dizaines, des centaines de tweets, et donc du coup maintenant on aspire et avec d'autres développeurs on a créé une visualisation de données, ce qui permet à David effectivement d'avoir sur le site de Mediapart une visualisation en live de ces signalements qui voilà ne sont plus des tweets unitaires, mais vraiment je pense que cela crée vraiment une visualisation forte et pour avoir comprendre ce qui se passe et ne pas avoir une vision simplement séquencée de l'information.
Parce que c'est ça en fait le cœur de votre métier, c'est de donner à voir des données, les trouver d'une part quand il faut le faire, mais aussi de les donner à voir, ce qui est un petit peu effectivement un enjeu clé. Du coup, vous travaillez avec qui ?
Alors, avec plein de métiers, je pense que c'est aussi ce qui m'a vraiment enthousiasmée dans... On n'est plus le journalisme solitaire, bien sûr, on essaye tous de mettre la plume dans la plaie, mais on n'est plus le Albert Londres avec le crayon et le stylo. Aujourd'hui, on a des équipes complètes avec des data scientists.
Alors, c'est quoi un data scientist? Parce que ce mot-là, on le voit partout. On a déjà pas mal parlé ici de designer UX, on va y revenir, mais un data scientist, c'est qui? Qu'est-ce que c'est son métier de base?
C'est souvent des statisticiens, on va dire, des ingénieurs mathématiciens. Et comme un peu toute notre nébuleuse autour de la data, on a mis le data devant et puis on a un petit anglicisme et ça fait sympa. Voilà, sans dévaloriser ce métier, c'est effectivement l'ancien métier de statisticien, d'ingénieur. On a bien sûr des designers, vous parliez de designers UX centrés sur l'expérience utilisateur, mais en tout cas des designers qui aiment le chiffre, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Et puis des développeurs, c'est-à-dire pour rendre interactif ces informations, puisque bien sûr les visualiser c'est bien, mais en plus, donner la possibilité aux internautes d'interagir avec cette visualisation, c'est pas un objet plat et qui ne bouge pas. Au contraire, via des interactions, il peut explorer ces visualisations lui-même. Et je pense que c'est ça aussi la force du web aujourd'hui.
Oui, parce que peut-être on peut essayer de revenir sur quelques exemples. vous citiez ce que vous avez fait avec David Dufresne, mais en fait, ça va de l'infographie. Ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vu, vécu, et qui d'ailleurs est assez, disons, vieux. Vous en avez vu déjà dans quasiment l'intégralité de vos quotidiens, et ce, depuis plusieurs dizaines d'années. Ça va de l'infographie à quoi, justement? Est-ce que vous pouvez me donner peut-être deux ou trois exemples, peut-être journalistiques, de data visualisation qui apportent, par exemple?
Alors, les visualisations de données qui apportent, ça peut être, pour ceux qui aiment ce sujet-là, il y a un nom qui est assez connu, qui est David McCandless, qui est un petit peu notre gourou, un Britannique, et qui a créé une visualisation très intéressante qui s'appelle le Billion Dollarogramme. C'est un grand cube de couleurs avec des espacements différenciés, et en fait, chacun représente une donnée monétaire. Et ce qu'il a fait, c'est hyper intéressant, c'est que au lieu de regarder les chiffres toujours séquence par séquence d'un journal, je regarde que les chiffres économiques, puis d'un coup que les chiffres sociaux. Pendant des mois et des mois, il a regardé tous les chiffres qu'il y avait dans un journal et les a mis côte à côte. Et tout d'un coup, de voir le poids, je sais pas, de l'industrie du porno par rapport aux ventes de croquettes pour chiens, puis ensuite le chiffre d'affaires d'Apple, tout ça n'a l'air de ne rien avoir ensemble, mais tout d'un coup, mis côte à côte, tout d'un coup, on se rendait compte pour la première fois des quantités et vraiment, oui, du poids des uns et des autres. Donc voilà, c'est une des visualisations qui a marqué son temps.
Alors effectivement, après vous pouvez parler de par exemple d'app. Dans les exemples, vous distinguez par exemple des choses qui sont interactives, des choses qui sont narratives. Comment est-ce que justement vous pensez ces questions? Et je vais aller directement sur une question cruciale, c'est celle du budget, c'est-à-dire combien ça coûte aujourd'hui? Qui finalement peut se permettre d'avoir recours à ça? Et surtout, est-ce que les médias, les institutions sont prêts à mettre de l'argent dans cette question de la visualisation?
Alors, sur la question de la... Oui, ils sont prêts parce que aujourd'hui la donnée, on en a parlé, il y en a énormément. Et ils savent que elles portent des messages forts aujourd'hui de compréhension d'un monde qui est hyper complexe. Elles reviennent en fait à assurer un fact-checking vraiment factuel. On a des chiffres, alors après on peut interroger les chiffres, les méthodologies, comment ils ont été recueillis, etc. Mais je pense que dans ce moment un peu de n'importe quoi au niveau de l'information, les chiffres sont une valeur sûre sur lesquelles s'appuyer. Donc oui, elles investissent. Aujourd'hui, on est une agence, on fonctionne, on estime en fait un temps de travail. Après, il faut savoir que pour les médias, par exemple, il y a plein de choses qui peuvent être récurrentes. Et c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est-à-dire viser des développements qu'on pourra réutiliser dans le temps, à l'occasion d'élections, à l'occasion de sport ou autre.
Vous développez, un espèce de produit qu'eux pourront réutiliser.
Exactement.
Ce qui fait que du coup, ça devient relativement rentable pour eux. Une toute dernière question. À 20h10, dans 10 ans, vous l'avez dit, en 10 ans, les choses ont extraordinairement changé. Votre métier est né, il n'existait quasiment pas il y a 10 ans. Dans 10 ans, vous voyez les choses comment? Est-ce qu'on aura encore besoin d'une agence qui fera ça? Ou est-ce que finalement, ces questions-là, ces qualités, cette approche-là aura peut-être infusé un peu partout dans ce métier de journaliste et même au-delà?
Elle l'a déjà infusé. Faut reconnaître qu'en France, les cellules data maintenant des journaux sont vraiment présentes et c'est bien. Après, je dirais que c'est un peu notre rôle, c'est d'aller toujours sur de l'innovation. Donc aujourd'hui, par exemple, on fait de la réalité augmentée, ce qu'on faisait pas il y a 2 ans. On va effectivement sur les bots, les messengers. Donc je crois intimement que de toute façon, les nouvelles techno nous permettront de toujours raconter des histoires en données et donc du coup qu'on sera toujours pertinent parce que la R&D elle est au cœur de notre activité.
La recherche et développement. Merci beaucoup Karen Bassi. Je rappelle que vous êtes donc data journaliste et cofondatrice de cette agence et ce studio de data visualisation qui s'appelle tout simplement We Do Data.
France Culture, 20h11.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10, le club de la presse numérique. Et nous parlons, pour terminer Soft Power ce soir, du rapport qui vient d'être rendu par l'autorité de la concurrence sur l'audiovisuel français, notamment dans ses aspects numériques. Ça a l'air un peu technique, mais vous allez voir, ça nous concerne et ça concerne le futur de la télé, la radio, etc. en France. Nous sommes pour en débattre avec Emmanuel Paquette de L'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Alors, saisie par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, l'autorité de la concurrence vient de rendre un avis sur ce que devrait être, selon elle, la prochaine réforme de l'audiovisuel. Cet avis se concentre sur l'émergence de géants mondialisés comme Netflix, Amazon et bientôt Disney+, ou encore Apple, et leurs effets sur notre politique audiovisuelle. Dans le club de la presse numérique, on revient donc ce soir sur ces propositions faites dans cet avis autour de l'autorité de la concurrence. Et pour commencer, Emmanuel Paquette, quelles sont les propositions clés de l'autorité de la concurrence?
Ben écoutez Frédéric, dans ce rapport, il y a à peu près 4 grands points importants, si on peut les lister. Le premier point, c'est d'ouvrir en fait la publicité qui jusqu'à maintenant était interdite, donc la publicité pour le cinéma, pour l'édition et puis pour la grande distribution lors d'opérations commerciales, ces trois grands thèmes étaient interdits d'antenne hein, sur les chaînes de télévision. Donc l'autorité de la concurrence demande à ce qu'il y ait une possibilité maintenant pour les chaînes de télévision de faire de la publicité autour de ces trois thématiques. Le deuxième grand point, c'est de pouvoir faire de la publicité ciblée, c'est-à-dire faire de la publicité qui soit directement liée par exemple un plombier qui pourrait habiter près de chez vous, par exemple. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on peut voir couramment sur Internet avec les annonces ciblées, les liens sponsorisés qui sont sur Google. Et bien faire la même chose aujourd'hui à la télévision, dans des flux audiovisuels, c'est techniquement possible, mais réglementairement interdit aujourd'hui en France. Donc l'idée, ça serait d'ouvrir cette disposition à tous les acteurs du marché. Le troisième point, c'est simplifier l'investissement dans la production, qui est extrêmement complexe en France, puisque les chaînes de télévision ont des obligations de financement dans le cinéma, c'est de l'ordre de 3,2% de leur chiffre d'affaires annuel qu'ils doivent réinvestir dans la production cinématographique européenne, et là-dedans 2,5% pour les chaînes gratuites dans de la production française. Donc l'idée, c'est d'assouplir un petit peu ces investissements, puisque aujourd'hui une chaîne qui finance ou qui préfinance un film ne peut pas disposer de tous les droits, notamment en SVOD, donc en vidéo à la demande sur Internet. Il peut juste l'exploiter en linéaire, c'est-à-dire sur sa chaîne pendant un laps de temps très réduit, et seulement sur le territoire français, pas à l'international. Donc l'idée, c'est d'assouplir cette réglementation. Et pour finir, le quatrième point, c'est de réviser les règles anticoncurrentielles, qui sont des règles qui ont été édictées dans les années 86, pour permettre justement le rapprochement probablement entre des radios, des chaînes de télévision, de faire des grands groupes de médias français pour pouvoir lutter contre des géants d'Internet comme Google, Apple, Facebook et les autres, qui disposent aujourd'hui de moyens financiers considérables, non régulés puisqu'ils viennent d'Internet. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer des contrepoids, des espèces de champions nationaux pour essayer de lutter contre les géants américains.
Gilles Fontaine, d'abord, est-ce que vous êtes surpris que l'autorité de la concurrence, qu'on n'attendait pas forcément dans ce secteur, intervienne dans celui-ci? Est-ce que finalement, c'est pas sain, alors même que le secteur est un peu fossilisé, le CSA se répète parfois, on a du mal à innover dans un secteur qui est très cadré, très régulé. Est-ce que le fait que l'autorité comme ça de la concurrence, qui vient un peu effectivement, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout explosé, est-ce que c'est bien ou pas?
En tout cas, c'est intéressant. Alors, on est à la fois surpris et pas surpris. Vous l'avez dit, c'est pas forcément le rôle de l'autorité de la concurrence de donner sa vision sur ce que seront les médias digitaux dans les années à venir. C'est pas trop une surprise, puisque au début de l'année, l'autorité de la concurrence avait fixé, en tout cas comme l'une de ses priorités, justement, d'intervenir sur l'organisation, la structuration des médias, et surtout peut-être alléger effectivement un secteur. Faut rappeler quand même que la loi audiovisuelle en France, ça date de 1986, et qu'on a fait à peu près, je crois que c'est 80 changements depuis, sans véritablement changer la donne. Aujourd'hui, on peut dire que les grands sages interviennent pour plusieurs raisons. Il y a une loi, effectivement, une vraie réforme de l'audiovisuel qui a été annoncée par le gouvernement. Aurore Berger, la députée La République En Marche, a remis ses propositions à la fin de l'année dernière. On en connaît les grandes lignes. D'ailleurs, on a l'impression que l'autorité s'en est largement inspirée. C'était prévu au début pour l'été 2019, et le ministre de la Culture, Franck Riester, a plutôt laissé entendre que ce serait finalement plutôt pour 2020. Et puis il y a aussi une directive européenne qui doit arriver, encadrer tout ça, notamment là plutôt sur du côté GAFA, c'est-à-dire Netflix, Amazon et compagnie, et leur imposer quelques obligations pour contrebalancer effectivement le rapport de force. Puis la dernière chose qu'il faut aussi voir, et qui donne un petit peu le sentiment d'urgence, enfin on a l'impression que c'est ce que l'autorité de la concurrence veut faire, c'est-à-dire un petit peu taper du poing sur la table en disant il va falloir prendre des décisions, peut-être même par décret, ne pas attendre une loi, parce que peut-être que ces acteurs aujourd'hui ne pourront pas survivre longtemps. Il y a plusieurs plateformes, Canal Play après lance, enfin redimensionne sa plateforme VOD là dans les jours qui viennent. Disney a annoncé qu'il allait lancer quelque chose, et puis il y a quand même toujours cette plateforme française, hein, Salto, qui doit être mise en place là aussi dans les prochains mois, et l'autorité de la concurrence devra donner son avis là-dessus.
Emmanuel Paquette, l'autorité reprend, lorsqu'on lit bien ce rapport, son avis en tout cas, les arguments historiques de TF1 et de M6 jusqu'au film le mercredi, le vendredi, je crois le samedi soir, qui pourrait et devrait être réautorisé à la télévision, alors que les films de cinéma, alors qu'ils sont encore interdits. Comment est-ce qu'on analyse cette prise de position plutôt favorable aux chaînes privées? Le SNPTV, qui est le syndicat national de la publicité télévisée, a par exemple salué la publication de cet avis, comme quoi il plaît, tout ça plaît aux chaînes privées.
Oui, en fait, on est un petit peu en France, la création française se trouve un petit peu comme, vous savez, l'âne de Buridan, c'est-à-dire se retrouve entre, vous savez, c'est cet âne qui se retrouve, qui a également soif et faim, et qui se trouve à côté de paille et d'eau, et qui n'arrive pas à choisir dans quelle direction il doit se destiner pour essayer d'étancher sa soif ou de manger. Et à la fin, donc, il meurt de faim et de soif, pour le coup, pour faute d'avoir choisi. Donc, on ne sait pas si aujourd'hui il faut prendre les GAFAN, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Netflix, et leur imposer, les règles qu'on a en France, tenter de leur imposer, ou si, à défaut de le faire, on fait l'inverse.
C'est tout le système français qu'on libéralise,
voilà, pour avoir effectivement la fin d'une asymétrie de traitement entre ces deux types.
Mais si on suit votre métaphore, dans les deux cas, on meurt de faim et de soif.
Pour l'instant, la création française n'arrive pas à se décider. C'est-à-dire qu'un coup, on essaye d'encadrer Netflix, Amazon, on n'y arrive pas vraiment. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est on va faire en sorte qu'on va enlever des obligations aux chaînes de télévision pour essayer de les rendre plus compétitives face à ces Américains. Mais à chaque fois, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on n'arrive pas à se décider. Puis surtout, il y a des lobbies en face, qui essayent de dire non à certains de ces principes. Il faut voir qu'aujourd'hui, le cinéma français, même la production française, se porte quand même plutôt bien, notamment grâce à la loi de 86, parce que jusqu'à maintenant, cette loi, elle a plutôt bien fonctionné, mais elle fonctionnait dans un monde fermé.
Mais ce monde du cinéma et les producteurs réagissent pas forcément très très bien à cet avis de l'autorité de la concurrence.
Non, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Pascal Regard, donc le dirigeant de la société des auteurs.
Non, je le disais pas. C'était hors micro.
Et c'était, voilà, Pascal Regard, donc, qui dirige la société des auteurs et compositeurs dramatiques, donc la SACD, lui, il estime que l'autorité est très proche des diffuseurs et que cette autorité ignore tout de ce que fait aujourd'hui des conditions de la création et de sa régulation en France. Et du côté de l'ARP, donc, qui représente aujourd'hui les réalisateurs et les producteurs, on parle d'un démantèlement total de la régulation, un dumping culturel, et on s'étonne de ce que l'autorité de la concurrence tente de prôner, qui va à l'inverse de la diversité culturelle telle qu'elle a été créée et développée en France.
Il faut quand même se souvenir de ce qui s'est passé notamment dans l'industrie musicale, où on voit bien que les acteurs ont bougé trop lentement, ont essayé de mettre en place plein de blocages pour finalement encourager encore plus le piratage. Enfin, ils se sont donné eux-mêmes les armes.
C'était pas leur premier projet d'encourager le piratage.
Non, mais enfin, en réalité, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont produit du piratage en masse, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les mécanismes aujourd'hui de chronologie des médias qui existent encore en France. Et je pense que Delphine Ernotte l'avait très bien résumé récemment en me disant, voilà, moi, quand je coproduis une série française, donc je mets de l'argent, j'investis dedans, j'ai le droit de la diffuser sur mon antenne en linéaire, ensuite j'ai le droit de la diffuser pendant 7 jours sur ma plateforme, et ensuite c'est pour fini. Netflix pendant 10 ans. Mmh. Voilà. Et c'est un système complètement
anachronique d'une certaine manière. Zoé Sfez.
On peut effectivement d'ores et déjà anticiper, vu ces propositions de l'autorité de la concurrence, qu'a priori pour Salto, ça risque de plutôt bien se passer, alors qu'il y avait vraiment un enjeu de ce point de vue-là. Effectivement, il y a une sensation qu'on essaye de couper la poire en deux. Il faut quand même aussi rappeler le contexte qu'on a souvent rappelé ici. Canal+ a un engagement, je crois, sur les chaînes hertziennes qui n'est pas indéfini. Ça s'arrête dans 3 ou 4 ans. Et avec cette... qui a acheté son canal hertzien, il suffirait que Canal+ quitte les réseaux hertziens pour être complètement dédouané des obligations qui vont avec, et donc du financement à la création. Donc pour le coup, même au niveau français, il y a urgence effectivement à bouger. Ça reprend effectivement des propositions qui sont assez cousines de celles d'Aurore Berger. Après, voilà, qui entendra ces propositions? Quelle est effectivement la nature de cette réforme? On va dire que quand même la réaction des créateurs, entre guillemets, est tout à fait attendue, et probablement elle est d'ailleurs assez nécessaire pour qu'il y ait un espèce de dialogue à la française et que chacun bouge dans son coin. Vous dites que le cinéma français va très bien et c'est en fait tout le paradoxe de cette histoire. Oui, le cinéma français va plutôt très bien, mais quand on regardait publié dans le film français qui est la Bible, hein, le film français c'est la Bible des professionnels du cinéma, qui a publié en début d'année la liste des 150 films les plus importants du cinéma français qui sont sortis l'année dernière, il n'y a que deux fictions qui, sans les aides publiques, sont rentables sur 150 films en France. Donc c'est à la fois très beau parce que ce texte-là, ce classement montre très bien d'une part et ben qu'on a un cinéma qui existe, qu'on a un cinéma qui est vu, et ce alors qu'il n'est vraiment pas dans sa grande majorité rentable. Donc ça veut quand même dire que d'une certaine manière ce système français il fonctionne parce qu'on a un cinéma qui est vivace, qui est récompensé à l'étranger et qu'il a le mérite d'exister. Après, est-ce qu'on va tenir longtemps comme ça? C'est vraiment une question qu'il convient de se poser, qu'on le veuille ou non.
Il y a effectivement un décalage total entre le monde de ces grands acteurs américains et notre écosystème à nous en France. Zoé l'a bien mentionné.
On peut même dire que la France est peut-être un des pays les plus atteints puisque on était tellement construit autrement, ce qui était notre force, fleuron de presque contre la globalisation pour défendre une industrie très forte.
Mais par exemple dans la production, le système de coproduction que Emmanuel mentionnait tout à l'heure est assez efficace puisqu'on arrive aujourd'hui enfin à produire des séries qui s'exportent, qui fonctionnent, etc. Ça c'est une chose, mais après moi je voudrais revenir sur l'élément de l'utilisation de la data par nos acteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est complètement incroyable, c'est que tous ces acteurs ont la possibilité d'exploiter la donnée pour envoyer des messages ciblés. Alors après, on est pour ou contre la publicité, mais le fait d'envoyer un message ciblé, évidemment, c'est le rêve de tout annonceur et de tout publicitaire. Donc on va éventuellement le faire, on va faire une période de test, on se demande vraiment pourquoi on doit faire une période de test, pour tester quoi ? Enfin, l'efficacité, ou est-ce que les gens sont embêtés, ou est-ce que ça provoque des drames sociaux ? Et puis surtout, on va le faire pour le privé, mais pas pour le public. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on empêche les chaînes de télévision publique éventuellement de tester également le système de la publicité ciblée ?
Emmanuel Paquette, avocat du diable en l'occurrence.
Non, parce qu'il se trouve que effectivement, il peut y avoir des effets de bord, donc c'est qu'on n'a pas encore mentionné, mais il se trouve qu'aujourd'hui la presse quotidienne régionale et puis les radios locales vivent essentiellement d'annonces qui sont justement elles localisées et géolocalisées. Donc si la télévision aujourd'hui s'ouvre à ce marché-là, elle risque de ponctionner une part de ce chiffre d'affaires et donc d'affaiblir des radios locales et d'affaiblir aussi la presse quotidienne régionale. Donc de ce point de vue-là, et on ne sait pas si ça sera le cas et si c'est le cas jusqu'où ça peut aller. Mais il faut savoir que les chaînes de télévision estiment que la publicité ciblée leur apporterait 200 millions d'euros supplémentaires de chiffre d'affaires d'ici 2022. Donc ces 200 millions d'euros supplémentaires, ils viennent d'où ? S'ils ne sont pas aspirés des radios locales ou de la presse quotidienne régionale, en tout cas, il est fort probable qu'elles en subissent le contre-coup.
Oui, sauf que ce que Emmanuel oublie de préciser, c'est que le marché global en France de la publicité s'est quand même sérieusement contracté ces dernières années et qu'on est par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, extrêmement en arrière et même un peu attardé de ce côté-là. On peut très bien imaginer qu'au contraire, c'est une part de gâteau supplémentaire qui va être offerte aux chaînes de télé. Je pense qu'Alain Veil, le patron d'Altice, Emmanuel peut pas trop en parler, mais lui en rêve, puisque il teste avec notamment avec ses filiales aux États-Unis où il a une chaîne un câble opérateur qui fait ça depuis des années et ça marche plutôt pas mal. Moi je pense que effectivement il faut laisser en tout cas le marché s'ouvrir et voir ce que ça va donner. C'est le principe même de la libre concurrence. Hein.
Zoé.
Oui, un dernier mot pour dire ça. Effectivement, c'est effectivement ce que dit Gilles. Ce part de gâteau publicitaire, c'est quand même l'énorme débat qu'on a sur la pub depuis des années, sur la presse en France. Après, c'est toute la question. Si les publicitaires, en plus, ont déserté cette catégorie qui est la télévision, c'était pour aller sur Internet où ils ont la possibilité de faire une publicité plus ciblée. Est-ce qu'ils seraient capables de remettre de l'argent avec la garantie de toucher les bons publics, y compris à la télévision? Bah, c'est un peu la grande inconnue. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils sont prêts à le faire ou pas? Voilà. On sait pas, mais c'est effectivement l'une des données de cette équation et qui, c'est pas non plus complètement impossible que ce gâteau refinisse par regrossir à l'aune de ça.
S'agissant du gâteau, le problème aussi, c'est que ce sont les GAFA qui en prennent désormais une grande part. C'est pas simplement qu'il a diminué, c'est qu'il a diminué pour les Français.
80% des nouvelles parts de marché publicitaire.
Et pour les médias traditionnels français. L'avis dont on parle ce soir est un avis consultatif. Quel impact, pour terminer, peut avoir l'autorité de la concurrence sur le projet de loi dont Franck Riester, le ministre de la Culture, explique qu'il pourrait ne pas arriver avant début 2020, pour terminer rapidement, Emmanuel Paquette?
Comme l'autorité de la concurrence est une autorité de fait indépendante, elle renforce quand même le projet de loi tel qu'il a été quasiment écrit par Aurore Berger dans son rapport. Donc ça donne un peu plus de force à ce rapport. Après, c'est vrai que la préconisation, c'est de passer des décrets tout de suite, donc d'aller très vite. D'ailleurs, c'est ce que reprochent les producteurs et les créateurs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat pour eux, alors qu'il faut qu'un débat s'ouvre avant de passer à des décrets. Donc aujourd'hui, on voit que tout ça va dans le même sens, politique et autorité indépendante.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les trois. Emmanuel Paquette de L'Express, Gilles Fontaine de Challenge et Zoé Cesse de France Culture qui avaient été avec moi comme chaque dimanche.
Bonsoir.
Merci. Bonsoir.
Merci à
vous
Frédéric.
Pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons notre émission aux nécessaires régulations de la consommation en ligne. Dans un instant, Carbone 14, et j'ai encore le temps de vous signaler que Clémentine Autain sera l'invitée des matins de France Culture, donc demain à ne pas rater. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end. Yeah.